C'est parti de rien, quoi, vraiment de rien, d'une serre en film étirable, de 4 bacs acier et d'une tôle transparente, un iPhone 13 rayé et c'est parti, quoi. Quand t'arrives sur les réseaux, que tu commences à avoir des abonnés, c'est vrai que t'es harcelé par les marques. T'as beaucoup de prises de contact de marques. Moi, je veux pas devenir un panneau. Comment on fait pour faire les bons choix quand on n'y connaît rien ?
C'est le super délit. Super délit. C'est le super délit.
Toute l'actu social média servie sur un podcast.
Salut à toutes et à tous, je suis Camille Poignant et vous écoutez le super délit. Aujourd'hui, épisode hors des sentiers battus puisque j'ai la chance d'accueillir un invité très particulier. Si vous êtes passionné de jardinage, de biodiversité, vous êtes forcément déjà tombé sur ces contenus. Si vous aimez faire les choses par vous-même et dans la bonne humeur, vous avez forcément déjà enregistré l'une de ces vidéos. Et enfin, si vous appréciez le contenu pédagogique, dynamique et très enthousiaste, vous avez forcément déjà regardé l'un des désormais mythiques face caméra de Goran, a.k.a. le permaculteur. Comment ça va, Goran ?
Bah ça va et toi ?
Eh ben ça va très bien, écoute, hein, on est bien, on est ensemble. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas le personnage, hein, le permaculteur c'est 1 380 000 abonnés sur les réseaux sociaux, si peu. Il s'est illustré dans des vidéos face cam pleines d'entrain qui te donnent immédiatement envie de mettre les mains dans la terre. J'ai droppé le mot jardin, c'est pas pour rien, parce que sa niche à lui c'est la permaculture. Il y a un tas de sujets que j'aimerais aborder avec toi aujourd'hui. J'aimerais qu'on parle de cette énorme quantité de contenu que tu publies, que tu produis, de la tonalité, Goran, les petits mots-clés, les intonations, de cette très belle communauté en ligne que tu as construit au fil des années. Un peu de stats, de data, parce que nous, on aime bien aussi les data. Et puis, parler collab de marque, éventuellement. Voilà, il y a énormément de sujets. La première question, la première orientation, et si je lâchais tout pour vivre dans la terre, dans mon terrain, dans la Drôme ? Comment on passe de fac de philo à créateur de contenu spécialisé en permaculture ?
Eh ben, je pense que la réponse, c'est le hasard. Hein. C'est le hasard peut-être qui m'a mené jusque-là. À la base, moi, j'ai quitté les études de philo parce que ça me gonflait, entre guillemets. Hein. C'était pendant le Covid. Donc, vraiment, pas ce rythme de cours que tu pourrais avoir à la fac normalement. Donc, j'ai très, très rapidement décroché. J'ai potassé, j'ai regardé pas mal de bouquins, de vidéos pour trouver en fait des trucs qui allaient m'intéresser et me faire kiffer, quoi. Et je suis tombé sur la permaculture. Donc du coup, je me suis lancé pendant 6 mois. J'ai regardé le plus de choses possibles sur le sujet pour apprendre le plus de connaissances possibles. Et en fait, moi, j'ai hérité d'un terrain familial. En fait, mes parents ont divorcé, ont vendu la maison et on avait 1 hectare de terrain. Donc j'ai gardé cet hectare de terrain. Il était vierge, j'avais rien dessus. Et je me suis dit, bah, j'ai le terrain. Ça vaut le coup de tenter, il faut faire un truc dessus, il faut cultiver quelque chose. Et justement, bah, j'ai décidé de me lancer dans le projet de monter une micro-ferme en permaculture et tout ça sur mon terrain de naissance, on va dire.
Donc Google, conseiller d'orientation.
Google, ouais.
T'avais quand même, je sais pas, un petit lien avec la terre, un truc qui t'a quand même donné envie de t'orienter là-dessus.
Ouais, bah il y a plusieurs liens. Déjà, le fait que j'ai grandi à la campagne, je pense que ça a beaucoup beaucoup aidé, le fait d'être tout le temps dehors, en fait, de plus passer de temps en fait à être dans le jardin avec les animaux, avec enfin j'ai toujours eu des lapins, des chats, des bah là j'ai un chien, j'en ai eu un autre avant. Là j'ai des poules, enfin j'ai toujours eu l'habitude en fait d'avoir des animaux et je passais aussi souvent mes vacances en Bretagne dans une maison familiale, une ferme. Donc du coup c'est vrai que les vaches, les veaux, bah c'était un peu le quotidien là-bas en Bretagne. C'était une ferme de laitière, donc du coup c'était incroyable, quoi.
Donc en fait on a eu exactement la même jeunesse, sauf que du coup bah toi t'es le moi d'aujourd'hui qui bosse pas dans la com et moi j'aurais pu finir comme toi dans un terrain de la Drôme et du coup tu viens de la Drôme, c'est ça ?
C'est ça, ouais, de Romans-sur-Isère exactement, la capitale de la chaussure et pourquoi pas un jour la capitale de la perma.
Ça c'est placé, bon tu nous racontes cette petite historique passionnant, C'est quoi ta définition à toi de la permaculture ? Parce qu'on en fait, ce terme, il est peut-être galvaudé pour certains, il est peut-être un peu extrême pour d'autres. Tu le défends très bien sur des vidéos, donc raconte-nous un peu ce que c'est pour toi la permaculture.
Bah, en fait, la permaculture pure et dure, à la base, ça vient de donc perma, permanente, et culture, bah, la culture de quelque chose, hein, que ça peut être de céréales, de légumes, d'animaux, par exemple, même si c'est pas de la culture, c'est de l'élevage. Mais du coup, c'est permanente culture, et en fait, c'est ce mot, en fait, il a sa définition qui lui est propre, mais en fait, la permaculture, c'est une philosophie de vie, c'est vraiment une façon de voir les choses, et finalement, chacun en fait peut se l'approprier à sa façon, et je pense qu'il n'y a pas vraiment une définition qui existe. Et je pense que les fondateurs justement de la permaculture, j'ai plus les noms exacts, hein, ces gars-là, quand ils ont créé la permaculture, je pense pas qu'ils se sont dit on va créer un truc qui est défini, qui a un modèle et ça doit être comme ça et pas autrement. Et ceux qui font pas comme ça, bah c'est pas des gens qui font de la permaculture. Je pense plutôt que les gars ils se sont dit on va imaginer quelque chose et justement si aujourd'hui ils voyaient l'évolution qu'il y a eu avec le temps, les personnes qui ont réinventé des techniques, tout ça, et ben je pense que justement eux ils seraient fiers parce qu'il y a eu une réelle évolution du milieu et le fait qu'il y ait justement des définitions qui changent en fait en fonction des gens. Et du coup pour répondre à ta question, pour moi vraiment la permaculture c'est vraiment un modèle de culture, un modèle agricole qui s'inspire du fonctionnement de la nature en reposant sur des principes fondamentaux certes, mais qui surtout a pour objectif en fait de contribuer à la biodiversité et contribuer au bien-être des hommes en fait.
Très belle définition. Et un truc que je réalise un peu, hein, ça fait super longtemps que je regarde tes contenus, que je m'intéresse aussi. Je fais du jardin aussi chez moi. Il y a certainement des choses que j'ai piquées de ton compte, comme bouturer des fraisiers, etc. Voilà, je te le dis. J'ai mon beau-frère qui est ultra fan aussi de tes contenus, qui est à fond dedans et qui a aussi, lui, sa définition de la permaculture, sa vision. D'ailleurs, il s'est basé sur une BD, je crois que c'est Petite leçon de permaculture, qui est ultra bien branlée, qui explique dans le détail. Et pareil, ça mélange toutes ces philosophies-là. Et ce que je trouve ouf... c'est que, bon, il y a le mot culture, c'est que c'est vraiment une culture à part entière, mais vraiment une culture populaire, en fait. C'est pas juste cultiver des choses, c'est en effet, chacun peut l'interpréter à sa manière. Et on le voit très bien, d'ailleurs, t'as un jeune qui est fringué en North Face avec un petit bonnet Lacoste et qui nous parle de jardinage au fin fond de la Drôme. Donc, c'est assez cool et je trouve que ça s'inscrit bien dans le temps d'aujourd'hui. Continue comme ça, ok? Bah,
merci beaucoup.
Bon,
merci
super. C'est que le début de l'épisode, donc t'es obligé de continuer.
Bien sûr.
Combien de temps tu passes par jour dans ton potager?
Eh ben, beaucoup, justement, ça c'est que ça prend toute la journée presque. Alors en ce moment un peu moins parce que justement là ça a été un peu la trêve hivernale, donc justement il n'y avait pas de gros travail au champ, mais là justement je commence à sentir l'activité qui s'intensifie, les semis qui commencent à prendre de plus en plus, les repiquages, là bientôt on va démarrer la plantation, donc du coup c'est vrai que au fur et à mesure du temps là je commence à voir la charge de travail qui augmente et ouais ça c'est en été ça peut être facilement 8 heures de travail dans le jardin.
Tu kiffes toujours autant ça?
Ah bah bien sûr, justement, je veux plus.
Et là, est-ce que t'es un peu en attente là du début vraiment officiel du lancement de la saison?
Ouais, c'est vraiment... là, ça a déjà un petit peu commencé, mais c'est vrai que j'attends avec impatience le mois d'avril qui justement est un peu le mois où tout est permis en fait. Hein, on dit souvent en avril, ne te découvre pas d'un film, mais pour le jardin, pour le coup, on peut tenter des folies. Et justement, c'est en avril un peu que tout se dessine, hein, parce que si on commence déjà à planter en avril, ça veut dire qu'on a déjà des récoltes en juin, et ça c'est intéressant, donc voilà.
Et tiens, est-ce que toi tu crois à ces citations de Daron, là justement, tous ces trucs, tous les calendriers, je sais que chaque jour quasiment il y a une citation du jardin, est-ce que tu y crois à ces croyances un peu à l'ancienne?
Alors ouais, c'est vrai que justement, en plus en permaculture, on se rend compte que les anciens, je dis encore entre guillemets, parce que c'est pas du tout péjoratif, mais les anciens ils ont toujours eu raison, des signes en fait que la nature nous envoie et qu'on peut interpréter justement, par exemple les calendriers lunaires, des choses comme ça. En fait c'est plein de facteurs que la nature nous a mis à disposition et qu'aujourd'hui avec la technologie on a oublié, mais quand on discute avec les anciens, on se rend vite compte qu'en fait on a tout à proximité et en fait on a juste à se renseigner et à être curieux quoi.
La permaculture, ça englobe tout ça. Donc, 8 heures par jour dans le jardin au fort de la saison et sur les réseaux, combien tu passes de temps par jour ?
Eh ben, sur les réseaux, justement, là, c'est aussi beaucoup de temps. Là, on va dire que... Bah là, en ce moment, là, vu que je suis moins au jardin, du coup, ça prend beaucoup plus de temps, c'est sûr. Mais ouais, on va dire en moyenne, pour ma part, ouais, 3-4 heures par jour. Donc, juste la partie tournée, pas monter, tout ça, parce que ça, justement, bah, c'est Hugo qui s'en occupe. Et heureusement, parce que je pourrais pas tenir le coup, clairement.
Je pourrais pas tout faire.
Clairement, je pourrais pas tenir le coup. Donc, c'est vrai que, justement, bah voilà, aujourd'hui, je suis avec Hugo. Donc, Hugo avec qui je suis associé pour les réseaux sociaux, avec qui on développe tout ça. Et on est aussi accompagné par Mathieu et Charlie. Qui sont justement nos agents et c'est vrai que ça nous aide beaucoup parce que ça permet de libérer beaucoup de temps facilement 4 heures de travail est libéré par jour donc c'est énorme quoi.
J'allais dropper des noms et des questions plus tard mais vu que tu as commencé est-ce que tu peux nous resituer vite fait justement qui sont les personnes qui t'entourent dans cette expérience là?
Et bah du coup bah premièrement il y a Hugo, donc Hugo c'est mon meilleur pote d'enfance, il est juste à côté de nous là et du coup bah en fait Hugo on habitait à 100 mètres l'un de l'autre quand on était jeunes, donc on se connaît depuis de nombreuses années. Je me souviens de lui qui arrive en vélo avec ses cheveux longs et qui vient me parler de cartes Yu-Gi-Oh, Pokémon, tout ça. Et en fait Hugo quand il est parti il y a un an en Asie pendant 6 mois et avant de partir on s'était dit bah le jour où il rentre on pourrait peut-être faire un truc, il m'avait parlé de faire un site internet pour la ferme, de bah potentiellement faire des vidéos, des choses comme ça. Hugo il a toujours aimé ça, faire des vidéos, il a un drone, il avait le stab, tout ça, donc du coup voilà.
C'est lui qui fait les vidéos et qui les monte du coup.
Justement ouais, voilà et en fait quand il est rentré 3 jours après être rentré d'Asie, donc pas de répit, on fait un barbecue et il me dit allez t'as pas une astuce là, on fait une vidéo là. Une petite vidéo de 30 secondes, là, bien condensée, on la monte, on la met sur TikTok et on voit ce que ça donne. Et ça direct...
Et c'est parti de là.
Assez bien pris, ouais. C'est parti de rien, quoi, vraiment de rien. D'une serre en film étirable, de 4 bacs acier et d'une tôle transparente, un iPhone 13 rayé et c'est parti, quoi.
Tu sais, ça, c'est un truc qu'on dit souvent à nos clients et souvent aussi dans le Super Daily à nos auditeurs. En fait, les gars, il n'y a aucune raison pour ne pas vous lancer, hein, que ça soit du podcast, de la vidéo ou autre. Vous prenez un iPhone, même d'occasion, même un peu rayé. Vous prenez une appli de montage. Si vous êtes chaud, que vous avez de la thune, vous prenez la suite Adobe. Mais en vrai, il faut se lancer, quoi. Bah, Goran, c'est la preuve. Hein, il avait un matos à l'ancienne et puis un pote et il est parti. Et voilà, aujourd'hui, on en est là. On va parler justement de création de contenu, hein. C'est un des cœurs de notre sujet. T'as un potager de 1500 mètres carrés, si je dis pas de conneries.
C'est ça.
À gérer, des poules à élever. On reparlera des poules aussi. Et avec tout ça, tu crées du contenu, énormément de contenu. Si je regarde là dans les 4 derniers mois, une vidéo YouTube de 10 à 15 minutes chaque semaine depuis 4 mois, une vidéo Instagram tous les 2-3 jours et une vidéo TikTok par jour. Donc
pas tous les jours TikTok, ça dépend.
Presque tous les jours.
On essaye, mais c'est de plus en plus. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué à tenir le rythme. Et l'idée, c'est pas de s'essouffler non plus. Donc c'est pour ça. TikTok, on varie en fait. Ça dépend la période.
Beaucoup.
Voilà. Sur Instagram, pour le coup, là, on essaye de respecter un rythme de 3 vidéos par semaine maximum.
Ok. Voilà. Et alors, comment t'es organisé pour sortir tout ce contenu? Il y a plein de trucs là-dedans. Il y a créer le contenu, écrire le script, publier le contenu. Comment t'es organisé pour faire tout ça?
Bah déjà, t'enlèves le script, parce qu'il n'y a pas de script.
Ouais, ok.
Premièrement.
Une question en moins.
Il n'y a pas de script déjà. Donc,
feeling. On voilà, y va comme
feeling,
ça.
Alors après, c'est sûr qu'au tout début, c'était vraiment freestyle, impro à 100%. Et c'est vrai que petit à petit, on commence à prendre un peu le post-it, à découper la vidéo en grandes lignes. Mais il n'y a pas de script. C'est les grandes lignes qui sont évoquées et c'est tout.
Ok. Et voilà. Du coup, ça, vous filmez ensemble avec voilà. Hugo. Et après, comment ça se passe? Qui fait le montage? Qui publie?
Justement, en gros, on fait la vidéo ensemble. Donc, on imagine la vidéo ensemble. En fait, on se dit, par exemple, la veille, demain, on fait une vidéo sur la peau de banane. On se dit, OK, on fait une vidéo sur la peau de banane. On la fait demain à 8h. Du coup, nous, bah, entre le temps où on est rentré chez nous et on revient le lendemain, on réfléchit chacun de notre côté. on se pose, on met en place tout ce qu'on a besoin pour faire la vidéo, et on se dit, allez, on tourne. Donc, je dis, bah, ouais, peut-être qu'on pourrait commencer comme ça. Je démarre, on fait, ah non, c'est pas bon. Hugo me dit, ah, démarre comme ça plutôt, on démarre, ah ouais, c'est pas mal, et après, on a ainsi de suite, et après, on se lance, et une fois que la vidéo est terminée, Hugo, il part en montage. Et une fois que c'est terminé, bah des fois il y a des voix off à faire, donc du coup je reviens avec lui, on fait les voix off ensemble, et après on poste.
C'est publié dans la foulée, quasiment la même journée.
Alors de moins en moins, on essaye de prendre quand même un ou deux jours d'avance quand même.
Ok, bien joué.
Mais ouais, sinon ouais c'est dans la foulée, et Hugo il poste sur Instagram, moi je poste sur TikTok.
Ok, donc et toi Hugo, tu gardes sur YouTube, ouais, tu justement. Gardes quand même la main là-dessus un pour, petit peu, ouais. Pour ouais. Être encore un peu geek des réseaux.
Ouais, quand même. Après moi c'est vrai que les réseaux, j'y suis à la base. Moi j'avais pas TikTok pour le coup avant. Enfin je jamais trop traîné en fait sur les réseaux. Donc c'est vrai que je suis un peu un boomer.
C'est pas grave, ça fonctionne. C'est le principal.
Je suis pas le meilleur sur ça, sur ce niveau-là. Et qu'est-ce que j'allais dire ? Je sais plus ce que j'allais te dire.
Ça va te revenir.
Ah oui, et du coup, oui, c'est vrai que du coup, j'essaye quand même de répondre. Bah, déjà sur TikTok, je réponds au plus de messages possible. Sur Instagram, aux messages privés, même si c'est vrai que c'est très très compliqué de répondre à tout le monde parce que c'est pas possible en fait, clairement. C'est pas possible. Et les commentaires sur Instagram, c'est beaucoup Hugo aussi qui, du coup, bah, à force, il commence à large connaître tous les sujets, quoi. Donc.
On va en parler juste après de cette version communautaire, réponse aux commentaires. Mais en effet, ça doit être, déjà, ça doit être un peu les courriers du cœur en message privé, j'imagine.
Ouais, c'est beaucoup de ça. Après, il y a aussi beaucoup de problématiques, justement. Et quand c'est des problématiques très spécifiques, là, justement, je réponds aussi parce que il y a des, enfin, style, par exemple, je sais pas, des fois, on a des plantes un petit peu à qui on est très attaché, enfin, un olivier qui appartenait à l'arrière-grand-père ou quoi. Et c'est vrai que quand je vois un message, ma plante va mourir, c'était celle de mon arrière-grand-père, je suis obligé de répondre.
Si vous voulez une réponse du permaculteur, commencez par ma plante va mourir. Voilà. Ça marche trop bien.
Je réponds instantanément.
tu dis que tu commences à, par exemple, créer une vidéo et la publier quelques jours plus tard. Est-ce que vous avez une vision un peu sur votre, alors nous on appelle ça le planning éditorial. Qu'est-ce que je vais publier ce mois-ci? Vous avez de l'avance sur un mois ou sur une semaine? Vous êtes comment un peu là-dessus?
On sait quand même quel sujet on va évoquer, parce qu'en fait, vu que nous, c'est du vivant, c'est du naturel, en fait, ça s'adapte par rapport aux saisons. Et en fait, les sujets, finalement, ils sont déjà prédéfinis. Mmh. Je sais que en décembre, je vais pas pouvoir parler de basilic parce que c'est pas la période. Par contre, en juillet, en août, en juin, pas de problème, on peut parler du basilic, on peut parler de la tomate, on peut parler vraiment de
ouais,
le tout,
contenu,
quoi.
Il s'impose, on va dire, les thématiques s'imposent un peu à toi par les saisons, mais après, est-ce que t'as une réflexion sur est-ce que je vais être plus tourné conseil, tuto, peut-être do it yourself? Est-ce que ça, t'as une réflexion en amont ou ça se fait au feeling sur le terrain?
Ça se fait pas mal au feeling, pas mal en fonction des demandes aussi.
Okay.
Par exemple, si, je sais pas, tu vois, par exemple, en été, souvent au mois de juillet, en fait, t'as une invasion de doryphore. C'est une
la plante des patates, la bête des patates.
Et en fait, c'est hyper problématique. Et à cette période-là, en fait, limite un message sur quatre, c'est pour te dire qu'il y a des doryphores et qu'il y a un problème, quoi. Donc du coup, c'est vrai que c'est des sujets quand on voit ça. Ah bon, allez, on fait une vidéo là-dessus parce que c'est vrai que c'est important.
Trop bien.
Et voilà, quoi.
Ok, c'est super intéressant de voir ça, de voir qu'en tout cas t'as déjà une réflexion par rapport à la communauté aux demandes. On va creuser ça tout à l'heure. J'ai fait une petite rétrospective moi des types de contenus que tu as publié de ton ancienneté. Alors on comprend que tu t'es réellement professionnalisé, si je dois dire, au retour d'Hugo il y a 6-8 mois, 10 mois peut-être.
C'était en 13 avril, je crois.
Ouais, voilà, c'est ça. Moi, j'avais mars, mai, j'avais en tête, mais c'est ça. J'ai passé pas mal de temps sur tes comptes, en perso, mais aussi, du coup, pour préparer cet épisode. J'ai vu beaucoup de rigueur, parce que c'est quand même un volume de contenu que tu sors depuis un an, et puis plus de temps que ça, et beaucoup d'évolution aussi. Alors, je comprends un petit peu mieux maintenant le décor. Avant, tu étais plutôt solo et pas très réseaux sociaux, et maintenant, tu te professionnalises. Mais je vais quand même faire une petite rétrospective de ta vie de créateur de contenu. 19 février 2021, il y a 2 ans, tu partageais ton premier contenu, une photo de tes pieds devant un paillage.
Le tout premier carré.
Ouais, très très beau. On voyait pas grand-chose, on voyait des bottes, c'était cool.
Ouais.
Ensuite, pendant une bonne année, une bonne année et demie même, jusqu'en octobre 2022, t'es devenu maître dans l'art du carrousel. C'est simple, tu racontais tout en 2-3 images. Parfois, c'était les mêmes. Deux emojis, 8 hashtags et roule. Et puis, 2 mai 2023. Donc, tu vois, on est à peu près dans les retours. Il y a 10 mois, quasiment tout pile, hein, première vidéo face caméra.
C'est ça.
Un tuto pour recycler ses pommes de terre.
Exactement.
Moi, j'étais en plein en train de me dire quand est-ce que je vais planter des patates, comment je m'y prends, et je suis tombé sur toi, et c'est qu'après que j'ai compris que ça commençait à prendre et que je te voyais de plus en plus. Cette rigueur-là, parce que du coup, tu t'infliges, hein, des jours, des volumes, des formats, des récurrences. Est-ce que cette rigueur, elle repose sur une stratégie, quelque chose qui est pensé en avance entre vous?
En gros, comment dire? En fait, il y a pas vraiment de stratégie, il y a pas de comment dire. En fait, à la base, on faisait une vidéo tous les jours. On s'est dit mais c'est pas possible. Tu peux pas faire une vidéo tous les jours. Puis après, on s'est dit bon bah on va faire 4 vidéos par semaine. Sauf que 4 vidéos par semaine, bah si tu veux faire du YouTube, que tu dois faire des interviews, que tu dois faire le jardin, que tu dois t'occuper des animaux, que tu dois en plus de ça, enfin faire plein de choses quoi. C'est pas tenable, et c'est vrai que on va dire 2,5 c'est le chiffre qui correspondait bien, parce que à la fois ça donne un rythme,
ouais.
Ça donne un rythme sur le compte, c'est condensé, à la fois c'est pas lourd, parce que du coup ça saoule pas l'audience non plus, l'idée c'est pas de saouler les gens, et à la fois en fait bah en fait ça fait comprendre aux gens que y a pas de saison en fait pour faire du jardin, pour faire quelque chose, et que en fait, toutes les semaines, on peut faire un truc, même quand il pleut. Ce qu'on voit, il y a des vidéos où bah, il fait pas beau, il y a des vidéos où il fait super soleil. et justement, l'idée, c'est de montrer que, en fait, on peut tout le temps jardiner. On peut tout le temps jardiner.
T'as remarqué que tu m'as dit qu'il n'y a pas de stratégie et que juste en parlant, tu viens quand même de m'expliquer une sacrée stratégie.
Mais justement,
tu vois.
Pour moi, la stratégie, c'est préparer. La stratégie, c'est préparer. Et là, pour le coup, bah, c'est pas vraiment préparé. C'est pas vraiment préparé, parce que le rythme, en fait, il est venu un peu tout seul. Enfin,
ouais, mais t'as trouvé un rythme. Vous avez
c'est
un
ça.
Rythme.
Par contre, ouais, on a trouvé justement, du coup, un rythme qui est intéressant et qui est, par contre, très prenant pour le coup.
Ouais, bah j'imagine. Mais bon, vous avez trouvé votre rythme. Comme nous, avec nos épisodes tous les jours, vous êtes infligé un truc. Maintenant, vous faut le suivre.
Bien sûr.
Côté geek, social media, il y a une question aussi qu'on se pose, hein, que je me suis posé. Est-ce qu'il y a, dans la manière dont tu fais tes contenus, dans les formats que tu choisis, un lien avec les algorithmes ou la performance des contenus? Je précise, est-ce que tu prends du recul sur comment fonctionnent les algorithmes d'Instagram en ce moment, quelles sont les vidéos qui marchent et comment elles sont montées? Est-ce qu'il y a une réflexion sur ça, les algorithmes et la demande
C'est vrai que quand tu postes par exemple 10 vidéos à la suite, et que t'as des vidéos qui explosent et des vidéos qui font pas de vues. Et pourtant, t'estimes que cette vidéo, elle est mieux que l'autre ou quoi. En fait, par exemple, une vidéo que je trouvais exceptionnelle, je comprenais pas pourquoi elle avait pas pris, tu vois. Je comprenais pas pourquoi elle avait pas fait plus de 30 000 vues. Et en fait, je la regarde 6 mois après, je me dis, mais en fait, elle est minable, la vidéo. Donc en fait, je pense que ça dépend de plein de choses, et quand on prend du recul au final avec le temps, on se rend compte en fait peut-être que cette vidéo elle était pas si bien que ça, peut-être qu'elle était pas si condensée que ça, et en revanche quand on regarde des vidéos qu'on se disait non elle est pas bien, et qu'au final on se dit pourquoi elle a marché, quand on la regarde en détail en fait on se dit ouais mais en fait il y a ça, et en fait c'est ça le secret, et du coup le secret, il y a pas de secret en fait. Je sais pas pourquoi j'ai dit le secret, et du coup à partir de ça en fait on prend note des choses, parce que du coup l'idée c'est de kiffer, mais c'est aussi de fidéliser l'audience, que les gens ils apprécient les vidéos, donc faut aussi faire des contenus qui leur plaisent et qui vont les inspirer et surtout qui vont leur donner envie de regarder, donc à partir de ça par exemple on a investi dans du matériel vidéo donc qui nous permet d'avoir des vidéos beaucoup plus qualitatives. Je pense qu'il y a quand même un contraste entre les toutes premières vidéos qui étaient moins lumineuses, des choses comme ça, avec aujourd'hui où les vidéos sont beaucoup plus lumineuses, beaucoup mieux montées, on met beaucoup de plans d'illustre maintenant, des choses comme ça. Et en fait, c'est des choses qu'on prend note par la suite, okay. En fait, qu'on se dit, ça a bien marché parce qu'il y a ça, faut qu'on le mette en place, c'est intéressant. Et au final, on se rend compte qu'en fait, on n'améliore pas le contenu en fait pour faire plus de vues ou pour avoir plus d'abonnés. Finalement, oui, c'est la finalité, mais en fait, c'est juste qu'on est fier de notre contenu, parce que notre contenu, on se rend compte qu'il est plus propre, il est plus condensé, il est mieux écouté, il est plus, comment dire, c'est plus facile à regarder en fait.
Ouais.
Il y a pas.
Ouais, il est plus fluide.
Ouais, voilà, c'est plus fluide, exactement.
Et ces points-là, là, donc tu prends de la hauteur finalement sur ce que t'as pu faire les mois d'avant. Est-ce que c'est récurrent ou est-ce que c'est un peu de temps en temps vous faites un point sur les précédents contenus Comment vous faites ça?
Je pense que ça dépend en fait. C'est des fois, par exemple, je sais pas, je vais être sur mon téléphone, je vais regarder les tout premiers contenus. Regarder. Des fois, ça me regarde, je suis un peu mélancolique. Je regarde. Je vois ma serre à moitié effondrée sur les vidéos. Je suis là, bon. Voilà.
Pourquoi
c'était pas mal.
Dans ces vidéos, il y a un truc qu'on repère très vite. Un des marqueurs qui t'identifie, c'est je l'appelle la tonalité Goran, la tonalité le permaculteur. Elle a évolué au fil du temps. Salut à toi, jeune jardinier du dimanche. Ou ok, aujourd'hui, je te montre tel truc, comment transformer cet avocat en plante d'intérieur. Ou alors ça, c'est du romarin. Est-ce qu'il y a une réflexion derrière ces petits changements? Est-ce que, pareil, c'est du retour en arrière sur « ça marchait mieux » ?
Non, en fait, c'est... Déjà, c'est l'envie, par exemple. Par exemple, quand on avait fait la vidéo sur le vin rouge, bah, en fait, j'avais trop envie de regarder la caméra et de dire « Salut à toi, jeune ivrogne !» Parce que je m'imagine, en fait, en train de regarder la vidéo et de rigoler parce que je me sens visé, en fait. Et du coup ouais, c'est beaucoup de ça, en fait. Par exemple, le jardinier du dimanche, c'est un peu provocateur. Et ouais, justement, je trouve ça drôle. J'imagine bien la personne sur son canapé en mode « Putain, moi, je suis pas un jardinier du dimanche !» Et il se lève et il va au jardin, quoi. Donc, c'est vrai que c'est un peu ça, l'idée de « Allez, on se lève et on fait un truc, quoi. »
Tu sais, chez Supernatif, on a, dans les lectures d'algorithmes qu'on a, il y a un truc qui est écrit nulle part et qu'on a en tête, c'est le « C'est trop ça ». Le « C'est trop ça », c'est quand t'es en train de regarder une vidéo où on dit POV, toi, quand ta meuf te demande un truc et que t'es mort de rire et que tu te dis c'est trop ça. Bah, en fait, je trouve que dans tes vidéos, il y a ce truc là où tu dis putain, c'est vrai que je suis un jardinier du dimanche, faut que je lève mon cul et que j'y aille, tu vois.
Ouais,
et en fait, ça, c'est pour nous, c'est l'ingrédient. Je te le donne gratos, hein. C'est l'ingrédient magique. Quand t'arrives à toucher vraiment un petit sentiment, un petit feeling de ta communauté avec une expression ou un truc, tu les accroches. T'as déjà passé le cap des 3 secondes de lecture de ta vidéo, tu sais, où les gens de rétention, puis après t'as plus qu'à dérouler.
Non,
en tout cas,
sûr.
Ça se fait naturellement, du coup,
c'est exactement ça.
Chez toi. T'as plusieurs petites, on appelle ça des gimmicks, hein, du coup, des manières d'introduire ou des petites phrases qu'on retrouve souvent. T'en as une à la fin que j'ai jamais compris, je vais te poser la question. Abonne-toi ou je te siffle. Ça vient d'où, ça?
Alors du coup, ça vient de quoi? Ça vient de je plantais du chou, de la salade, donc j'étais dans le...
En 1773.
C'était de la salade, j'étais dans le champ avec Hugo, on faisait une vidéo sur le semis de salade, sur la plantation des salades, et on n'arrivait pas, c'est là peut-être la 4e ou 5e vidéo qu'on faisait, hein. On n'arrivait pas à conclure la vidéo, en fait. C'était nul à la fin. Ça faisait en mode, et si t'as bien aimé cette vidéo, abonne-toi, ou t'as un truc comme ça, et c'était ridicule, quoi. La tonalité que j'avais, c'était pas bon, j'avais pas envie de faire ça, et on s'y est repris à 15 fois, et avec Hugo, on était saoulés, et il faisait chaud, je m'en rappelle, et il me dit quoi? Bon, allez, dis abonne-toi avant que je te siffle, et après c'est terminé, on arrête. Et en fait, je regarde, et il me fait,
c'est
pas mal quand même, c'est pas mal du tout finalement, et on fait, bon, allez, je lui dis, allez, mets là, qui tente rien à rien, au culot.
Ok, très drôle.
Et maintenant, quand on le met pas, c'est il est où le abonne-toi avant que je te siffle dans les commentaires. Donc
ça répond un peu à ma question d'après. Est-ce que tu vois un intérêt dans ces petites gimmicks, ces manières? Oui, ça manque aux audiences finalement.
Bah, c'est-à-dire ça manque aux audiences.
Bah, t'as des gens qui peuvent te dire, elle est où la petite phrase de fin, tu vois?
Ouais, bien sûr. Bah, après chacun a son petit truc, hein. Y en a plein, ils ont juste un petit mot ou un petit truc qu'ils mettent dans leur vidéo qui fait que justement, bah, t'as envie de re-regarder d'autres vidéos. J'ai pas d'exemple précis en tête, mais
non, mais je vois très bien. On avait eu Beijing Clean, qui est un mec qui est fan de ménage. Je sais pas si tu vois. Tu vois
qui
c'est?
Je connais pas du tout.
Il est fan de ménage. Il adore nettoyer les trucs. Il va dans le bar en bas de chez lui pour nettoyer les vitres du bar.
Okay.
Et il fait tout à base de produits naturels, notamment beaucoup de savon, huile d'olive, savon noir et tout ça. Et il invente ces trucs. Et il a toujours aussi des petites gimmicks très pro avec un langage très verbeux au début. Et ça, c'est son truc à lui.
Ouais.
Et il dit en fait, ouais, c'est vrai que ça marque le truc, ça accroche dès le début et ça permet de continuer. Donc toi, t'en as aussi des gimmicks et ça a l'air de bien fonctionner. J'ai une autre question. Alors, je sors un peu du registre gimmick. Pourquoi ton compte, c'est le permaculteur?
Alors là, justement...
J'ai une idée, mais j'attends la réponse.
Allez, je veux d'abord ton idée, je veux d'abord ton idée.
Je me suis dit, le gars, il a trouvé son truc, le permaculteur, trop bien, je vais déposer mon nom de domaine ou mon site comme on le ferait. Merde, c'est déjà pris.
Non.
C'est pas ça.
Non, c'est pas ça, c'était pas pris le permaculteur. Le permaculteur n'était pas du tout pris.
Alors, raconte.
C'est, bon, on fait le compte. Donc à la base, le compte TikTok s'appelait la ville massée ou la micro-ferme.
Ok.
Donc c'est un TikTok que j'avais fait... J'avais mis 3 TikTok, okay. Ça n'a pas marché. Donc au bout d'un moment, on avait 2 ou 3 000 abonnés, je crois. Donc du coup, on change, hein, on met le permaculteur. Et bon, on continue, on fait des vidéos, tout ça. On monte à 80 000 abonnés. Et là, on était assis avec Hugo. Et il me regarde, il me dit « Oh, il y a un problème ». Je lui dis, c'est quoi le problème? Il me dit, regarde le nom du profil. Je lui dis, quoi? Il me dit, mais lis. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, mais c'est écrit le permaculteur. Je lui dis, mais non et tout. Je regarde, je vois qu'on peut modifier. Je modifie, je veux mettre le permaculteur. Ça remet le permaculteur. Du coup, bah, mort, on peut pas modifier. Faute de frappe, du coup, on se dit, bon, bah, en vrai, c'est tellement drôle que. Allez, on laisse et du coup bah c'est resté et voilà. Mais du coup c'est juste le arrobas finalement.
Ouais, non mais j'adore.
C'est juste, voilà, c'est pour la petite histoire, c'est marrant.
J'adore. En vrai, ça empêche pas ton référencement quand on tape le perma ou perma, on te trouve. Mais j'ai trouvé ça drôle. Il y a des tonnes de possibilités et que ça soit une connerie ou une correction automatique, je trouve ça très drôle.
Bah c'est surtout qu'on s'en est rendu compte un mois après à 80 000 abonnés quoi. Donc c'est vrai qu'on était là en mode ok.
Ok, ça aurait pu être pire, c'est pas si pire, ça c'est assez drôle, mais la communauté, t'as déjà commencé à me donner des billes, je vais réorienter tout ça, j'ai balancé quelques chiffres vite fait au début, 1 380 000 abonnés cumulés, 891 000 abonnés sur Instagram, 390 000 sur TikTok, 100 000 sur YouTube en 4 mois de contenu à peu près, c'est monstrueux, voilà, c'est dit. Quel lien, toi, t'entretiens avec tous ces gens? Ça fait du monde.
C'est-à-dire un lien?
Bah je sais pas, dis-moi. Est-ce que tu te sens connecté à eux? Est-ce que t'échanges? T'as commencé à me donner des billes un petit peu, hein. Tu réponds en message privé, tu vois, en fait
je pense que on est tous pareils. Enfin, clairement en fait. Enfin, je suis comme eux. Et je pense que c'est peut-être le truc en fait qui... C'est qu'en fait on a tous la même vie. J'ai la même vie que tous les gens qui me suivent. Je suis pas à Bali ou à Dubaï sur vrai. Un yacht. J'ai mes New Balance toutes sales. Donc, c'est pour ça peut-être que le fait qu'il y ait de la proximité entre guillemets, c'est que en fait on est tous pareils et voilà quoi.
Ok, bah tu m'as dit, hein, tu réponds aux commentaires, vous répondez, vous êtes sûrement équipés à plusieurs pour le faire, aux messages privés. Du coup. Ma question suivante, t'as l'impression d'être proche d'eux? Moi, j'ai plutôt l'impression que oui, parce que tu te forces à répondre à tout ça.
Ouais, clairement. Bah, en fait, je suis plein de gratitude. Je suis plein de gratitude et de comment dire? Parce que pour moi, je le prends comme des gens qui me soutiennent et qui ont aussi un peu cru en moi entre guillemets d'une manière ou d'une autre. Et moi, en fait, je suis juste plein de gratitude et clairement sur le cul en fait parce que. Parce que j'aurais jamais pensé ça. Et en fait, si je pouvais tous les avoir devant moi, bah, je saurais même pas quoi faire, en fait. Parce que
t'as pas les bras assez longs pour faire un câlin.
J'ai pas les bras assez longs, ouais. mais franchement, c'est que... Ouais, j'ai même pas les mots, en fait.
Tu veux pas nous inviter pour un barbecue?
Bah,
si. Je peux peut-être t'aider à trouver une solution.
Hein. J'ai un bras zéro, mais je sais pas si on pourra faire assez. Hein.
J'ai compris que t'avais vous splittiez un peu la manière de répondre aux commentaires et tout. Comment ça se passe? Toi, tu prends la partie message privé. Vous avez chacun un temps dédié pour répondre à tout ça?
Non, en fait, ça dépend. On a tous les deux. En fait, on est tous les deux connectés sur le compte et en fonction des questions, des messages qu'on reçoit, tout ça, bah, on répond. Moi, c'est beaucoup le soir plutôt que je réponds parce que la journée, je suis pas trop sur le téléphone. Mais le soir, ouais, quand je suis dans mon lit, je réponds. Je vois un peu les messages qu'on reçoit. Bah, j'essaye de lire le plus de messages possible, hein. Répondre clairement c'est pas possible, à tous les messages c'est pas possible, mais j'essaye d'en lire un maximum quoi.
Ok, de quelle manière tu réutilises cette matière, quand je parle de matière c'est les questions des gens, les commentaires, pour orienter ton contenu? Tu m'as donné quelques pistes, mais concrètement, comment ça se passe? J'arrive, je te parle d'une problématique sur les Doriforts. Comment toi tu réagis dans la foulée?
Bah c'est simple, si quand je vais dans nouveaux messages ou enfin demande de messages, donc le troisième onglet dans les messages Insta, si je vois que quand je défile, je vois le mot 15 fois Doriforts, c'est que je sais que le problème actuel c'est la Doriforts et du coup bah si je connais la solution pour remédier au problème, bah allez Hugo, si t'es chaud on fait la vidéo, on fait une vidéo sur le truc. Et si je connais pas justement, bah je vais aller chercher les connaissances parce que par exemple, moi les Doriforts pour le coup j'en ai eu la première fois l'année dernière et les autres années j'ai jamais eu de Doriforts, donc j'avais jamais eu ce problème et donc du coup c'est pour ça que j'ai dû trouver les solutions justement pour arriver à résoudre le problème, mais c'est vrai qu'il y a des problématiques justement que j'ai pas du tout moi par exemple sur mon terrain que justement je dois aller chercher, je dois aller creuser, me renseigner pour trouver ce qu'il faut quoi.
C'est qui ton expert jardin? C'est Google ou
c'est
t'as,
Google,
un, t'as
ouais.
un grand-père
c'est,
ou un papy dans le coin qui
non,
t'aide?
Justement mon grand-père il est plus là aujourd'hui pour m'aider malheureusement mais ouais mon gros coup de pouce en vrai c'est les cours en fait. C'est quand j'ai besoin d'une info vraiment très précise sur un sujet style sur la greffe ou des trucs comme ça. Je vais sur internet, je mets PDF cours greffage avec les termes techniques.
Okay.
Ça me sort un PDF d'une école d'une école d'agri à Nantes ou je ne sais où. Et en fait, j'ai juste à regarder, j'ai toutes les infos dessus. Bon, il faut quand même regarder, mais après, voilà.
Ouais, bon réflexe. Ça, ouais. C'est toi, ta veille à toi, c'est ça. C'est
ouais,
bah, piquer les cours des écoles où t'es pas allé.
C'est ça. En fait, c'est exactement ça. Moi, honnêtement, clairement, en fait, la plupart des trucs que j'ai appris en maraîchage, en agriculture, tout ça, en fait, c'est que des trucs de cours, d'école où justement je suis jamais allé, quoi. C'est des PDF en fait qui mettent sur internet.
Et... Le Jardi Geek 3.0, trop bien. Donc on te pose plein de questions. J'ai bien compris. Parfois tu réutilises directement la matière quand c'est un gros sujet phare. Est-ce que t'as déjà utilisé les fonctionnalités de réponse aux commentaires, par exemple, tu vois, sur TikTok, tu peux prendre un commentaire et direct faire une vidéo?
Non, c'est vrai que ça pour le coup, jamais fait.
Okay.
J'ai jamais fait et c'est dommage parce que justement je pense que c'est une fonctionnalité qui est intéressante justement parce que ça permet à la fois bah de répondre à des problématiques précises parce que du coup on peut répondre des fois il y a des commentaires avec des problématiques très très très
ouais.
ciblées hein. Et justement bah ça peut être intéressant parce qu'à la fois ça fait du contenu pour des personnes qui auraient la même question et à la fois bah ça répond à une question qui peut être récurrente et ou un sujet très précis qui est pas du tout récurrent mais qui peut être intéressant à évoquer par exemple.
Bon, je te glisse super dopage algorithmique ce type de réponse notamment sur TikTok, c'est vraiment un truc que la plateforme elle kiffe que tu
ah
utilises
ouais
moyen de répondre. Donc si t'as l'occasion de test et puis d'en glisser 2-3 dans ta prise de parole, c'est cool.
OK.
Tu verras.
C'est bon à savoir.
Et est-ce que tu fais aussi, tu vois là c'est une fonctionnalité TikTok, mais si tu vas sur Meta par exemple Insta, t'as la possibilité de faire des stickers de questions. Est-ce que tu vas chercher, en story je parle, est-ce que tu vas chercher aussi d'autres manières d'interagir avec la communauté que seulement les commentaires ou la messagerie privée?
C'est vrai que justement en fait pour t'expliquer, en fait la communauté c'est arrivé tellement rapidement en fait que... Qu'en gros, on a pris un peu les fonctionnalités qu'on connaissait.
Bah oui, c'est bien.
Et du coup, on arrive à un stade où justement, on se rend compte qu'en fait, il y a plein de possibilités, il y a plein de trucs à faire. Et maintenant, petit à petit, ouais, justement, on va essayer de mettre en place ça. Par exemple, on a lancé une série qui, justement, en fait, ça vient beaucoup des abonnés, justement, qui ont demandé, qui disaient, ouais, on en veut d'autres. C'est le potager mois par mois.
Ouais.
On fait tous les mois on fait une vidéo sur le mois de janvier, mars, avril, mai, juin et en fait ça nous permet d'avoir en fait ça fait un petit peu comme une mini série en fait où les gens se retrouvent et les gens adorent et à la base en fait ça vient de on en a fait une, on a dit bah si ce type de contenu mois par mois avec un petit peu condensé ça vous plaît, dites-le en commentaire et on a eu plein de commentaires et du coup aujourd'hui bah c'est un petit peu le c'est-à-dire la marque de fabrique du compte, mais c'est un petit peu la vidéo que tu retrouveras tous les mois sur le compte, quoi.
J'ai vu, ils sont donc on les retrouve sur YouTube essentiellement, elles sont
ouais.
assez longues. C'est marrant parce que nous on accompagne du coup la marque Botanique qui est une marque de jardinerie et on fait un contenu qui s'appelle alors qui est en carrousel Instagram pour le coup qui s'appelle Que faire au jardin en mars en 7-8 slides, quoi planter, quoi traiter, quoi retourné, etc. Quoique hier, et ça cartonne. Donc c'est clair que c'est un... toi, t'as appris par toi-même que c'était un format qui pouvait fonctionner.
En fait, ouais, c'est. Je pense que tu vas voir. Enfin, peut-être que vous l'avez déjà vu, mais tu vois par exemple sur TikTok, j'ai beaucoup de retraités qui m'envoient des messages et qui me disent j'adore votre émission. Et tu vois, moi ça me fait rire, c'est sûr que la première fois que j'ai entendu
votre feuilleton est très sympa.
Ça me fait rire, mais en fait peut-être que tu vois les retraités, les personnes on va dire au-delà de 55 ans, peut-être qu'en fait ils voient les réseaux sociaux un petit peu comme une sorte d'émission finalement. En fait, c'est un petit peu comme un feuilleton où justement il y a des créateurs qu'ils aiment bien, un petit peu comme si c'était des présentateurs télé finalement qui ont un petit peu leur petite vidéo ou émission toutes les semaines et qui suivent quoi. Et c'est vrai que ce mot émission, il est ressorti, mais vraiment plein de fois de retraités justement qui disaient « Ouais, bonjour, je suis une mamie, j'adore ce que vous faites, j'adore votre émission. »
J'avais pas prévu cette question, mais et tu viens de la créer là. Tu dirais que, alors, choisis la plateforme ou dans l'ensemble, mais quel âge ta communauté? Alors, 2-3 tranches, hein, si tu veux, fais un peu comme tu le sens, mais...
La communauté, en vrai, c'est un couple de personnes, enfin, hommes-femmes de 37 ans.
Ok, c'est très précis. Ils ont un enfant?
37 ans et elle est enceinte.
Ok. Et ils vivent à quel endroit? On a besoin de ça,
ils
nous,
sont au 8e étage à Paris.
Ok, ah ouais, donc on est sur... Non, mais ça pourrait, hein,
Non, honnêtement, pour le coup, là, je pourrais pas te dire, mais je sais qu'en tranche d'âge, à peu près, on est sur, entre 30 et 45, okay. La majorité, ouais.
Ok, trop bien. Ouais. Pour ton interrogation sur les plus anciens sur TikTok, ils sont de plus en plus nombreux. On a des datas là-dessus, c'est un truc assez énervé, TikTok, on n'est plus du tout sur des 16-18. Ouais. Maintenant, c'est 18-44, enfin 24-44, la cible la plus présente, et énormément d'anciens aussi.
Ouais.
Et TikTok a une grosse vocation de plateforme de divertissement. Donc, c'est pas du tout étonnant que depuis leur téléphone, ils voient ça comme une émission.
Bah, bien sûr.
Parce qu'on est là pour te divertir. Et puis, en plus, quand tu regardes si tu continues à slider ou alors à regarder simplement la vidéo, on te propose une autre vidéo de Goran. Et ça ressemble pas mal à un feuilleton.
Ah, c'est exactement ça. Hein.
Feuilleton 9/16e.
C'est ça. Puis après aussi, je pense que justement, le fait que ce soit jardin, tu vois, moi je le vois beaucoup. À chaque fois que, quand j'étais plus jeune, j'allais chez un ancien qui avait un potager. Genre, t'allais toujours dire, plus personne le fera, tout ça. Et peut-être que de voir, en fait, que, y a des jeunes qui s'y mettent, en fait, ça leur fait plaisir parce qu'ils se disent, en fait, on n'est peut-être pas perdu, quoi.
T'as des grincheux un peu, genre, ouais, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Hein.
Oui, ça, c'est tout le temps.
Il y en a.
Ça, c'est...
Ok, c'est les classiques. Les haters du jardin, c'est non, tes oignons, faut les mettre vers le sud. Hein,
ouais,
c'est pas...
les relous qui font toujours mieux que toi, mais qui font rien. Toujours. Hein.
Là, on parle de communauté, on parle de tes abonnés, en gros, tes audiences. On parle beaucoup de communauté en ligne sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, et une plateforme qui s'est construite autour des centres d'intérêt communautaires. Je suis fan de jardin, on va beaucoup me proposer de contenu de jardin, mécanique, bricolage, etc. Est-ce que tu as l'impression, toi, d'appartenir à une communauté de jardinage, à savoir, est-ce que tu as du lien avec d'autres créateurs de contenu dans le jardin, jardinage, permaculture même?
Ouais, justement, c'est là que c'est intéressant, c'est que justement, en fait, il y a plein de personnes en fait qui font du contenu jardin. Et par exemple, il y a une personne que je suivais sur les réseaux, le potager d'Olivier sur YouTube, un gars que j'adore hein, et que j'ai appris plein de trucs avec lui sur ses vidéos. Et c'est vrai que j'ai échangé avec lui il y a quelques semaines, super sympa, tu vois, on a proposé peut-être de faire une vidéo ensemble, tout ça. Il y a Jigmé aussi, par exemple, avec qui on a discuté, qui est très 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 sympa, j'ai grave hâte de le rencontrer et tout, je pense que c'est un gars qui est dingue en vrai, ça doit être ouf. Et plein d'autres créateurs, tu vois, il y a Frenchy Gardener, Patrick qui habite en Belgique, je crois, ou en Allemagne, je sais plus, et qui fait des vidéos en fait sur son balcon.
Ok.
Donc il fait de la permaculture sur son balcon.
Ok, trop bien.
Donc c'est top, et il y a plein de créateurs comme ça, et c'est vrai que c'est cool de voir qu'il y a une communauté justement là-dessus et qu'on peut discuter, interagir, voilà, c'est cool.
Ok, écoute, en tout cas ça marche bien, donc continue avec cette communauté.
Merci.
Je fais un petit tour aussi du côté de plateforme un peu plus large. J'ai l'impression que la plateforme qui a le plus explosé et qui t'a fait peut-être le plus perdurer, c'est Insta, où on est sur 890 000 abonnés et quelques en 10 mois. J'imagine qu'avant, ça devait être assez petit avant d'exploser.
Ouais, bah, la base, hein, tu sais quoi, je vais te le sortir en direct, hein. j'étais tellement dingue, moi, à l'époque, que j'ai fait un dossier. J'ai fait un dossier.
Jour par jour, capture d'écran.
Jour par jour, capture d'écran. Tu vois, le 14 avril 2023, donc on était déjà à la cinquième vidéo, on était à 331 abonnés sur TikTok. Et sur Instagram, c'était. Voilà. 23 avril 2023.
Ok, 148 abonnés. Donc ça a pété en mai à peu près, quelques semaines après.
En fait, ça a pété le 3 juin.
Ok.
Le 3 juin 2023, 100 000 abonnés en moins de 24 heures.
Mais c'est bien connu, c'est le point de convergence entre la Lune et les algorithmes. C'est comme ça. Hein.
C'est calendrier lunaire.
C'est le fameux 3 juin.
C'est ça.
Toi, c'est quoi la plateforme sur laquelle tu t'éclates le plus ?
Je pense que... Franchement, je pense que c'est YouTube. Dans le sens où c'est... En fait, Insta, j'aime beaucoup, mais c'est vrai que ça demande une rigueur énorme. Ça veut pas dire que YouTube demande pas de rigueur. YouTube demande une rigueur, mais pas... comment dire ? Instagram, il faut tout le temps que ce soit condensé, il faut tout le temps que ce soit prenant et que ce soit très rythmé. Ouais. YouTube, ça peut être chill. On peut se poser autour d'une table, discuter comme ça, tu vois, c'est beaucoup plus tranquille et c'est ça, moi, que j'aime. Je préfère largement tourner tranquille, parler. Moi, j'aime beaucoup développer, en fait. J'aime pas...
On va le voir, hein, vous verrez, cet épisode dure 2h40.
Bon, bah...
Ok, donc ouais, YouTube, c'est là où tu kiffes le plus. Insta, clairement, ça a besoin d'être speed. On est aussi sur des formats vidéo Reels. Ouais. Divertissant, donc ils doivent captiver très vite et donner une info aussi rapidement.
C'est ça.
Sur TikTok, est-ce que tu dupliques du contenu Insta ? Ouais, t'es là-dessus pour l'instant.
Ouais, c'est le même. Pour le moment, c'est le même contenu et justement, l'idée en fait, c'est d'évoluer ça en fait.
Ok.
C'est d'évoluer ça. Et ça en fait, ça va venir avec le temps parce que en fait, il faut se dire qu'aujourd'hui, la ferme, elle n'est pas ouverte au public et pour le moment, il n'y a pas grand chose. Mais quand elle va être ouverte ?
Là, ça va pas déconner là.
Toutes les infrastructures. Il y aura du personnel, j'aurai des employés avec qui je pourrai travailler. Et en fait, il faut se dire que ce sera un terrain de jeu immense, un terrain de jeu d'un hectare, avec plein de recoins, d'endroits où il y a des animaux différents, des plantes, des scies. Et à faire des vidéos, en fait, ça va être génial parce qu'on va pouvoir faire du contenu qui va être tellement varié. Ça va être à la fois pédagogique, drôle, divertissant, même éducatif. Moi, l'idée, c'est de faire venir tout le monde, en fait. Moi, je veux faire venir aussi des chercheurs, par exemple, pour mener des expériences, des trucs comme ça.
Quand tu feras tout ça, un petit conseil, pense chaque coin comme un plan de caméra.
Ouais, exactement.
Nous, c'est ce qu'on a fait dans les autres locaux qu'on a mis en place. On s'est dit, OK, il faut que chaque endroit puisse être utilisé avec une cam derrière et que ça soit joli.
C'est sûr.
Ça pourra t'aider, tu vois.
Alors, après, le problème, c'est que du coup, vu que c'est une ferme, il faudra quand même produire, par exemple.
Bien sûr.
Tu vois, le maraîchage, par exemple, genre, ce sera droit, tu vois.
Ouais, mais
genre,
c'est joli, tu vois, c'est ça que je veux dire. Oui, mais faut que ça reste naturel.
Ce que je veux dire, c'est que ça fera pas des beaux massifs dans le maraîchage, mais par contre, justement, l'idée, c'est d'avoir des jardins où t'as des espaces vraiment très, très bien entretenus et justement, ça va être intéressant quand ce sera ouvert, là, justement, j'ai hâte.
Trop bien. Petit focus sur YouTube. Tu t'es officiellement, tu me dis si c'est une connerie, mais lancé sur YouTube, lancé vraiment les premiers contenus qui apparaissent, en tout cas, il y a 4 mois. Mmh. En 4 mois, j'ai découvert ta chaîne YouTube il y a 2 jours, puisque j'en ai bien assez sur Insta, ça me suffit pour ma conso perso. Ça me fait assez rire la manière dont vous avez préempté YouTube, parce que tu as testé plein de formats un peu phares de YouTube. Faire un feat avec un YouTuber, check. On en reparle après, si tu veux. React sur un événement, salon de l'agriculture, mort de rire. Je me suis vu, moi, je l'ai déjà fait pour un client et genre dans les allées en train d'être perdu.
T'as vu la fin de vidéo ?
J'ai pas tout regardé, je suis désolé.
Ça a mal fini, j'ai vomi à la fin.
Ah bah, ça me surprend pas.
non, mais intoxication alimentaire.
Hein. Oh putain, moi ça fait une mauvaise pub pour le salon de l'agri. Tuto/ do it yourself, aussi on retrouve de ça. Et c'est FAQ, le jardin en avril, choses comme ça.
Ouais, ça.
Donc t'as testé plein de chose. Est-ce que tu penses que pour fonctionner sur YouTube, il faut trouver le bon format, tester les formats ?
Je pense qu'il faut kiffer. En vrai.
Maxi conseil !
En vrai, franchement, je te jure, c'est vrai qu'il y a, il y a, y a trop de personnes, tu vois, sur les réseaux et tout, qui disent « Ouais, faut aimer ce qu'on fait et tout. » En vrai, ils ont pas tort, franchement. Il y en a beaucoup, c'est des escrocs quand ils disent ça, mais franchement, je pense qu'il faut kiffer ce qu'on fait. Et en vrai, tu le vois, hein, tous les gens qui font des vidéos, le grand JD, les gars comme ça, c'est des gars, ils sont passionnés par ce qu'ils font. Les gars, c'est des marteaux de ce qu'ils font, tu vois. Ils vivent de ce qu'ils font et c'est des trucs qui les animent. Et je pense que si tu fais un contenu en mode, tu dis, je vais faire une chaîne YouTube, l'objectif c'est de faire 12 millions d'abonnés et tout ça, en vrai, ça marchera pas. Parce que tu vas t'enfermer.
Ça va être très long.
Voilà, ou ça va être très long, mais tu vas t'enfermer dans un truc, t'auras une vie pourrie. Enfin, je pense, hein, après.
Ok, non, mais c'est une très bonne vision des trucs et ça marche en tout cas super bien sur ta niche à toi. Donc, ça, c'est cool. T'as rencontré, du coup, créateur de contenu, t'as fait un feat, une vidéo collab avec InoxTag. Est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que t'as kiffé?
Ouais, j'ai kiffé. En fait, c'était pas prévu à la base, encore une fois. C'est en fait, Inox, il faisait son tour de France avec GMK, en camping-car. Et en gros, Hugo, enfin, moi je connaissais Inox, mais enfin, je suivais Inox, mais vite fait, tu vois, je jamais trop regardé les vidéos et tout, mais je savais qui c'était. Et Hugo, lui, justement, le suivait beaucoup. Et en fait, il a vu que justement, il faisait le tour de France en camping-car, et il a vu qu'il était à Montpellier. Et en fait, pour remonter à Paris, quand t'es descendu de Bordeaux, si tu fais le tour de France, tu remontes par la 7 et tu passes à côté de chez nous. Donc du coup, Hugo, il lui a envoyé un message en lui disant « Ouais, viens à la ferme et tout, si tu passes à côté et tout. » Et par miracle, en fait, il a vu le message. Et du coup, il a dit « Ouais, BG, t'es où ?» Vous êtes où? Du coup, on a dit, on est là et tout.
Trop bien.
Et du coup, il est venu et ouais, c'était trop cool. De base, il devait rester une demi-heure. Je crois qu'il est resté 2h30. Il devait pas manger. On a fait un gros barbecue finalement. Enfin, bref.
La vidéo, elle a pas mal fonctionné, même un peu plus que les autres, on va dire. Après, bon, ça se tient avec un feed comme ça. Est-ce que tu penses à réitérer ça avec d'autres invités, d'autres youtubeurs?
Ouais, justement, l'idée, en fait, ce serait d'inviter justement d'autres personnes à venir découvrir. Quand il va y avoir les travaux d'aménagement de la ferme, il y a des trucs qui peuvent être sympas à faire, de faire par exemple des collabs avec des personnes qui font de la cuisine par exemple, du potager à l'assiette, des choses comme ça. C'est vrai que c'est des trucs qui sont hyper intéressants, ouais. Où il y a du partage et aussi on partage un peu les communautés parce que ça permet de faire découvrir d'autres personnes à ta commune, donc c'est vrai que c'est intéressant.
Carrément. Sur YouTube, dernière question. Donc, on a vu que l'ingrédient premier, c'était le kiff. Hein. Voilà. Les sujets, t'as testé plusieurs formats, etc. On a rencontré Justin Buisson il y a pas longtemps. Je sais pas si tu connais. Il est motion designer, vidéaste. Il se fait un gros kiff sur YouTube. Il fait plein de formats cool. Et il nous a expliqué un peu le gros taf que c'était de bosser sur les miniatures, les vignettes des vidéos YouTube. Est-ce que toi, est-ce que c'est un taf chez vous? Est-ce que vous y allez à la Wallou? Est-ce qu'il y a de la réflexion là-dessus?
Justement, ouais, c'est justement tout le travail d'Hugo et par exemple là pour la dernière miniature, il s'est bien cassé la tête justement. Il a mis, je crois, bien deux heures sur la miniature pour la faire. Et c'est vrai que justement, moi je m'en rends pas trop compte. Pour moi en fait, c'est pas une miniature qui fait la vidéo, du coup je m'en rends pas compte, mais c'est vrai que tout le monde dit ouais justement la miniature c'est un peu ce qui définit la vidéo. Je suis plus en mode c'est le contenu pour moi qui fait qu'une vidéo elle est bien quoi. Mais c'est vrai que du coup il y a du travail là-dessus et justement on essaye d'évoluer la chose, de faire en sorte que les miniatures soient de mieux en mieux et voilà.
Ok, bon, c'est bien d'en prendre compte, c'est important. Dernière rubrique, avant qu'on aille bouffer. Collab de marque, exposition média, on va parler un petit peu des RP de Goran. J'ai vu que récemment, il y avait eu belle exposition, bel éclatage médiatique pour toi. Il y a eu Quotidien, Combini, Le Super Daily aussi, là on est sur des très gros médias. Est-ce que ça a changé des trucs pour toi, tout ça?
Ça a changé dans le sens où... Premièrement, c'est vrai que du coup, quand maintenant il y a une interview ou quoi, je suis beaucoup moins stressé, par exemple, parce que du coup, je commence à m'y habituer, quoi. C'est presque au moins, enfin c'est au moins une interview par mois, donc ça va faire un an, donc ça commence à je commence à plus avoir, tu vois, la boule au ventre, tout ça que tu peux avoir.
T'étais pas stressé de venir là, rassure-moi.
Non, okay, non. Je te mens pas, la première interview, j'étais pas serein, tu vois. un truc qui aurait dû se faire en 30 minutes, je crois qu'on l'avait fait en 2 heures et tout.
Okay.
J'avais chaud, je m'en rappelle, j'en peux plus. Donc c'est pour ça. Et sinon, ouais, ça te fait découvrir à d'autres personnes. Et c'est vrai que c'est intéressant de recevoir de nouvelles personnes. C'est vrai que quand on est passé par exemple sur Quotidien, ça a ramené un très gros flux de personnes et ça a été super intéressant. Plein de gens qui ont découvert le compte et qui suivent du coup depuis activement le compte. Donc c'est vrai que c'est cool, quoi.
Ok, trop bien. Moi, je te suis depuis le début et jusqu'à très récemment. Ça donne pas de date précise, comme ça je suis tranquille. J'avais vu très peu de collabs, de marques, de partenariats sur ton compte. Un des premiers trucs que j'ai vu, je crois, c'était cette appli où tu pouvais refiler tes légumes quand tu avais un surplus. Oli, c'est ça?
Exactement.
Pour le coup, j'ai trouvé que c'était super bien amené, la manière dont tu le faisais et tout. Je crois que ça commence, là si je dis pas de bêtises, ça commence à se développer, tu commences à avoir davantage de collabs de marques.
Ouais, justement, en fait ça a été un peu au début, tu vois, c'est vrai que quand t'arrives sur les réseaux, que tu commences à avoir des abonnés, c'est vrai que t'es harcelé par les marques, t'as beaucoup de prises de contact de marques, beaucoup de malveillance aussi bien sûr. Ça, c'est un truc sur lequel on se dit pas souvent, mais il y a aussi beaucoup de malveillance. Et justement, ça en fait ça a été comment dire. En fait, comment on fait pour faire les bons choix quand on n'y connaît rien?
Ouais.
Et ça, c'est le gros problème. Parce que t'arrives dans un milieu que tu connais pas.
Ouais.
T'arrives dans un milieu que tu connais pas du tout, que tu maîtrises pas du tout, et sur lequel personne peut vraiment te conseiller. Parce qu'en fait, personne n'y connaît vraiment, tu vois.
Goran, c'est un putain de panneau d'affichage, hein.
C'est-à-dire?
Bah, quand on est dans la com, on se dit putain, lui, c'est un panneau d'affichage. Et toi, tu sais pas comment gérer ton panneau, quoi.
C'est ça. Et justement, en fait, moi, je veux pas devenir un panneau. C'est que l'idée, je suis pas un influenceur, quoi. Je suis agriculteur et je fais de la création de contenu avec mon meilleur pote. Et voilà, quoi. Donc, nous, c'est plus. Collaborer avec des marques, en fait, pour réaliser des projets ensemble, en fait. C'est pas je mets en avant le dernier robot mixeur parce qu'il est rose et il est trop beau et il y a une promo dessus. Moi, en fait, je mets en avant moi j'ai envie de réaliser tel produit, par exemple, je te donne un exemple. J'ai envie de créer un énorme bac de permaculture, un gros bac pour cultiver des agrumes, par exemple. Et ben moi, du coup, je vais chercher une marque comme en fait qui va vouloir m'accompagner justement pour ce projet, pour réaliser une belle vidéo sur le truc, donner aussi envie aux gens de réaliser ce projet. Et on n'est pas dans une démarche de je fais la promotion d'un produit ou quoi.
Ça colle avec tes projets en général.
Voilà, c'est ça. C'est faux que ça colle avec les projets et voilà quoi. Il faut aussi que la marque elle soutienne. Le projet de base, quoi, qu'elle soit en alignement avec les valeurs, ça c'est une évidence aussi.
Donc c'est comme ça au final que tu choisis les marques, c'est alignement avec tes valeurs et puis trouver un projet commun,
ouais,
quelque chose que toi t'as besoin de mettre en avant et de développer
c'est ça.
À ce moment-là.
Après, il y a aussi la possibilité, enfin le cas où on peut mettre en avant une marque, une association ou un organisme parce que justement. Je trouve que c'est incroyable ce qu'ils font, tu vois.
Ouais, ok.
Tu sais, je sais pas, une société qui lance un truc, enfin une association qui a pour but de planter des arbres dans toute la France, là c'est différent que si c'est une marque qui veut vendre du pétrole, par exemple. Ça a rien à voir, quoi.
Ouais, là on n'a pas trop envie de toute façon.
Voilà.
De base.
C'est exactement ça.
T'as soulevé un point intéressant sur en fait on arrive, il y a peut-être de la malveillance, peut-être on est perdu, on n'est pas accompagné, il y a pas d'école là-dessus, il y a pas de PDF d'agriculteur d'école d'agriculture pour te dire comment devenir agri-influenceur, je sais pas si ça existe. Du coup, tu vois, ici on a pas mal de créateurs de contenu, on a pas mal de free, on a pas mal d'agences, de social media managers qui nous écoutent, énormément de typologies de gens différents. Moi, il y a une question, je pense qu'il peut leur parler aussi, c'est comment vous vous y êtes pris ensemble pour mettre une valeur face à ton travail, fixer des tarifs, des contrats. Comment vous êtes pris pour arriver à mettre un prix là-dessus, un truc équitable? Comment vous avez fait?
Franchement, je sais même pas. Honnêtement, je pense que en fait, déjà tu discutes avec d'autres créateurs, des créateurs qui proposent quelque chose, et puis après tu te fies aussi par rapport à l'éthique. Dans le sens où il y a des choses qui sont inconcevables. vendre ton image pendant 1000 ans, enfin, c'est non.
Déjà humainement, c'est pas possible.
Voilà. Non mais c'est un exemple bidon, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que en fait, tu te rends compte qu'il y a plein de choses à prendre en compte et que la tarification, en fait, c'est pas forcément le temps que t'as pris, que ça t'a pris. C'est surtout l'image que ça va avoir. Deuxièmement, le temps que ça t'a pris, bien sûr. Mais surtout, l'impact et quelle est la société ou l'organisme qui...
Sur combien de temps ça t'engage, voilà, ça engage ta personne.
Donc en fait, tu te rends compte qu'il y a ça et tu te rends compte en fait que en fait, il n'y a pas de prix et que c'est pas à toi de le décider, que c'est justement là qu'on s'est rapproché d'agents qui sont du métier et qui ont la valeur des choses et qui savent ce qu'il faut mettre en avant, ce qu'il ne faut pas mettre en avant et voilà.
Ok. Du coup, toi, dans la foulée, ou alors un peu avant, un peu après, tu vas m'expliquer, t'as monté une agence avec des potes.
Une agence ?
Vous bossez en agence, t'as un agent, d'influenceur, un agent de créateur, ou comment tu... Comment tu décrirais ton fonctionnement ?
Nous, avec Hugo, on fait notre train de vie, en fait, on fait nos vidéos, tout ça, on organise notre truc comme on l'entend, entre guillemets, et à côté de ça, nous, on est accompagnés par l'agence Brioche, justement, qui s'occupe de toutes nos demandes entrant, c'est aussi un peu nos conseillers, hein, dans le sens où, par exemple, je sais pas... tu vois, par exemple, là, je vais bientôt lancer une campagne de financement participatif pour monter la ferme. Et tu vois, eux, ils nous aident à ils me disent, par exemple, peut-être pas écrit comme ça, change peut-être les couleurs, je sais pas. Et tu vois, nous, avec Hugo, on se dit, en fait, ouais, c'est un peu des conseillers, finalement, okay. Tu vois, ils t'aiguillent, ils t'aident à prendre les bonnes décisions sans les prendre à ta place, hein. Ça veut pas dire qu'ils prennent une décision à ta place, mais ils t'aiguillent et ils te mettent en garde aussi. Ils te mettent en garde et sur le plan juridique aussi. Sur le plan juridique, donc c'est ça qui est intéressant, quoi.
Donc ça, c'est un des gros trucs qui t'a aidé aussi peut-être au début.
Ouais, clairement.
Ok. Écoute, t'as répondu pendant 1h10 à énormément de mes questions. Merci. Est-ce que toi, t'as des questions ? Profite-en. C'est gratuit en plus.
Non, je pense pas avoir de questions. Quelle est la question que t'aurais voulu que je te pose ?
T'es amoureux de tes poules ?
J'aime mes poules, ouais. Alors amoureux, pas autant que ma femme, mais, mais j'aime énormément mes animaux et mes animaux, c'est comment dire ? C'est ma thérapie, c'est ce qui me fait vibrer, quoi.
Elles ont des prénoms, tes poules, ou pas ? Alors, désolé, non, je suis très poule, hein, parce que moi, j'ai des poules aussi, et elles ont des prénoms.
J'ai 50 poules de réforme,
okay.
Hein, des poules rousses. J'ai 6 poussins nègres de soie. J'ai une poule blanche, une poule naine blanche, 4 coques, 5 oies. Okay. Donc du coup, c'est vrai que c'est un peu compliqué de donner un prénom à tout le monde. Alors, le surnom qu'elles ont toutes, c'est Zouzou, c'est toutes des Zouzous.
Ouais, ça va vite.
Mais sinon, il y en a une qui a vraiment son prénom, c'est Zouzoune.
Okay.
Et elle, c'est ma poule favorite, hein. Elle est là depuis le début. Elle était dans le poulailler il y a un an. Et en gros, elle s'est fait attaquer par tout le cheptel de poules. En fait, je crois qu'elle avait l'aile cassée. Et du coup, toutes les poules, en fait, se sont mises sur elle, ont essayé de la tuer. Du coup, moi, je suis rentré, j'ai tout dégagé, je l'ai sorti. Et justement, moi, quand il y a toutes les poules qui se mettent sur une, je les déteste toutes, sauf celles qu'elles ont attaquées.
Ah, ok, je vois.
Et du coup, je m'en suis occupé pendant super longtemps. Au début, elle marchait plus, elle arrivait plus à voler. Je me suis dit, elle va mourir. Et aujourd'hui, elle est en super forme. Elle est encore très fragile, c'est sûr. Hein. Elle vole plus, par exemple, mais elle a 4 ans et elle pète la forme. Là, à cette heure-là, elle doit être dans la serre en train de bronzer. elle est vraiment trop bien. Et...
Je pense que nos auditeurs sont très contents de cette petite passage poule, parce que j'en parle assez régulièrement des miennes. Elle s'appelle Laurine, Dalida et Dallas. Elles me suivent partout. Alors moi, je peux organiser comme chez toi. J'ai pas 200 poules, j'ai pas 1500 hectares. Par contre, elles me suivent partout. Elles sont dans mes pattes tout le temps. Je sais que pour la permaculture, la biodiversité, des fois, faudra les calmer parce qu'elles bouffent un peu trop les vers de terre. Mais bon, c'est pas grave.
Elles apportent tellement de matière organique dans le sol. Elles contribuent tellement que... Un de manger, c'est 10 de pousser.
Ok, on va rester là-dessus. Goran, merci beaucoup pour tes réponses.
Merci à toi.
Merci pour cette interview. Continue comme ça.
Merci.
Pour ceux qui ne le connaissaient pas ou qui ne le suivaient pas encore, allez voir. Franchement, il y a un bel enthousiasme derrière ces vidéos. Il y a pas mal de choses aussi dans l'inspi à apprendre. Et rappelez-vous d'un truc, ce qui doit driver tout, c'est le kiff. Ouais, a priori, c'est la meilleure recette. Et puis après, bon, il y a les datas, les stats et les algorithmes. Mais on parle là-dessus en premier. Merci Goran.
Merci
à toi.
Je
vais appuyer sur le bouton de fin et je te dis à très bientôt.
À très bientôt.
C'était pas du tout le bouton de fin, il est là.